Monseigneur Marcaillet, bonjour. Nous
Bonjour.
sommes heureux de vous retrouver pour notre entretien bimestriel diffusé simultanément sur Radio Lapourdi en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Nous sommes avec vous, Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous allons d'abord évoquer l'assemblée plénière des évêques à Lourdes à laquelle vous avez participé du 5 au 10 novembre dernier. Et puis dans un second temps, nous aborderons les différents événements qui se sont déroulés dans notre diocèse depuis notre dernier entretien. L'assemblée plénière des évêques à Lourdes, c'était donc du 5 au 10 novembre. Vous y avez participé en voisin. Beaucoup de sujets ont été abordés. Comment s'est déroulée cette assemblée? Racontez-nous un petit peu l'ambiance avec donc un nouveau président, Monseigneur Georges Pontier, nouveau président de la conférence épiscopale.
Oui, alors c'est sûr qu'on avait... C'était une grande première bien attendue, hein, le discours d'ouverture du Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, que nous avons élu en avril le nouveau président de la Conférence évêque de France, qui prenait la suite du cardinal André XXIII, dont la personnalité est bien connue et qui a été d'ailleurs aux avant-postes pendant ces derniers mois, en particulier dans les médias, surtout autour des questions sociétales qui ont été agitées toute l'année dernière, enfin toute cette année plus exactement. Et bien finalement, si on peut, même si les médias disaient la page va être tournée, ça va être tout à fait un autre style, c'est le style du pape François. Alors c'est vrai que c'est un évêque qui est bien connu pour ses positions de proximité vis-à-vis des plus pauvres. Hein. Mais moi, je crois qu'il y a une belle continuité là encore entre le précédent président et Monsieur Pontier, qui a un style certainement plus homélitique que ne l'avait le cardinal 23. Il nous a, dans son discours de clôture, comme dans son discours d'ouverture, il est parti de la méditation de la parole de Dieu. Et comme je lui disais d'ailleurs après son discours de clôture, en le remerciant pour ses propos, tu nous emmènes à la source de notre engagement qui est spirituel et ça nous permet ensuite d'éclairer tous nos engagements, quels que soient les moyens différents que nous pouvons prendre aussi pour les assumer. Et il m'a répondu, oui, c'est vrai quand même que notre première mission, c'est de servir le Christ et l'Église et de travailler à l'avènement du royaume des cieux. Et donc je crois que c'est vrai qu'il a une manière très simple, hein, d'aborder les choses. Et en effet très spirituel. Au fond, il nous invite à poser d'abord un discernement spirituel et donc à nous tenir toujours par rapport à tous nos engagements, qu'ils soient proprement ecclésiaux ou sociaux et sociétaux, et bien nous tenir vraiment à l'intérieur de la foi et de l'enseignement de l'Église.
Alors, Monseigneur Aillet, vous avez reçu lors de cette assemblée le directeur général de l'œuvre d'Orient qui est venu vous parler de la situation des chrétiens au Moyen-Orient.
Oui, alors ça, c'était une belle séquence. Monsieur Pascal Gollnisch, en effet, directeur général de l'œuvre d'Orient, avait été invité à nous adresser quand même quelques mots pour nous rendre compte un peu plus de la situation des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient, et en particulier en Syrie. Car l'œuvre d'Orient, comme vous le savez, est très engagée pour soutenir toutes les œuvres catholiques, en particulier dans ces pays qui sont le berceau, hein, du christianisme, mais qui vivent cette cohabitation depuis des siècles avec les musulmans qui sont venus s'implanter dans ces terres et où les chrétiens sont devenus de plus en plus minoritaires, avec aujourd'hui un exode des chrétiens étant donné la situation extrêmement difficile et douloureuse qu'ils connaissent là-bas, avec tous ces mouvements et en particulier ces groupes islamistes qui s'invitent sur ces territoires et qui évidemment répandent partout la terreur, pas seulement sur les chrétiens mais aussi sur les musulmans, comme nous l'a expliqué M. Gollnisch, même si les chrétiens payent forcément le plus lourd tribut. Et on a vu en effet des villages entiers qui pouvaient être l'objet de non seulement d'intimidation mais de véritables massacres. Et tout cela a été exposé avec beaucoup d'objectivité par quelqu'un évidemment qui a l'habitude d'aller au Proche et au Moyen-Orient et pour nous inviter en effet à nous rappeler à notre responsabilité. C'est vrai que les États d'Europe, ainsi que la France, se sont engagés au cours des derniers siècles à protéger les minorités chrétiennes et donc il est évident que pour nous c'est quand même très important. D'ailleurs, comme il nous le disait, l'équilibre de ces pays du Proche et du Moyen-Orient est assuré par la présence des chrétiens, qui sont toujours facteurs de paix, facteurs de dialogue, facteurs de réconciliation, de collaboration. Et il est évident que si les chrétiens ne sont plus présents dans ces pays-là, eh ben ça va être l'établissement d'un islamisme très dur qui pèsera d'ailleurs lourdement sur l'immense majorité des musulmans qui n'en veut pas et qui le subira comme c'est dans leur, j'allais dire, pratiquement dans leur sociologie ou dans leur croyance religieuse. Et comme m'avait dit lors de mon voyage au Liban il y a 2 ans maintenant, à Beyrouth, si les chrétiens ne sont plus au Proche, au Moyen-Orient, en particulier au Liban, ils ne seront plus non plus longtemps en Occident.
Alors, Monseigneur Ayet, lors de cette assemblée plénière des évêques de France, vous avez également mené une réflexion sur l'Europe à quelques mois des prochaines élections du Parlement européen. Pourquoi cette réflexion en amont des élections ?
Alors, je pense que, avant toutes les grandes échéances électorales, les évêques aiment bien donner des indications. Non pas des indications de vote, bien entendu, mais souligner l'importance de ces échéances électorales sur l'avenir de notre société et sur l'avenir de l'Europe qui est en construction. Avait été invitée à intervenir devant l'Assemblée Madame Sylvie Goulard, qui est députée européenne, sensibilité plutôt modem, et qui est venue nous dire l'importance de la construction de l'Europe pour non seulement la paix entre les nations, mais aussi l'équilibre économique et social dans ce grand continent qui compte maintenant, avec 27 États membres, plus d'habitants qu'aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc ensuite, c'est une vision des choses hein, à laquelle on n'était pas nécessairement obligé d'adhérer, mais qui a donné lieu, comme d'habitude, après l'intervention de quelqu'un, à un débat entre évêques à huis clos sur les enjeux de l'Europe. Alors évidemment, ils sont très très diversifiés. Hein. On a à la fois conscience que l'Europe est une force, que devrait être une force de cohésion face peut-être à des pays émergents qui pourraient avoir des instincts de conquête comme la Chine ou autres. Mais en même temps, on se rend compte aussi des limites du système et on voit bien que les communautés nationales sont quelquefois éprouvées, en difficulté et on ne voit pas forcément les effets immédiats de cette construction européenne sur le sort des populations locales, comme on le voit en France en particulier aujourd'hui, mais comme on l'a vu aussi pour la Grèce, comme on le voit aussi pour l'Espagne et d'autres États membres.
Alors vous avez parlé d'indications. Les évêques ne donnent bien sûr pas d'indications de vote, mais quelles sont les grandes lignes de leur
préconisation ? Disons qu'ils soulignent l'importance de la construction européenne de manière à ce que les fidèles accomplissent leur devoir de citoyens. Après, chacun est libre et ça pourra donner lieu à bien d'autres débats en se rapprochant des élections européennes.
Ce n'est pas paradoxal que les évêques soutiennent cette Europe finalement qui est en crise, alors même que les députés européens n'ont pas voulu inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution européenne.
Alors c'est évident que ce n'est pas le premier propos de l'Europe quand elle s'est construite. On rappelle en effet les origines et les racines chrétiennes de l'Europe. Ça a d'ailleurs été une des questions posées en disant comment vous comprenez-vous que l'Europe se construise en dehors des racines chrétiennes qui ont fait sa culture et sa cohésion à travers l'histoire. Et c'est sûr que Mme Goulard n'était pas tout à fait à même d'y répondre dans le sens attendu des évêques.
Monseigneur Ayet, vous participiez à un groupe de travail intitulé « La présence des catholiques dans la société contemporaine ». Quelles sont les questions que vous abordez dans ce groupe de travail ? Et vous avez présenté, je crois, le fruit de votre réflexion devant l'Assemblée des évêques.
Alors, Monseigneur, en effet, Éric de Moulin-Beaufort, qui était le président de notre petit groupe de travail, après nos dernières réunions de synthèse sur toutes les auditions et toutes les étapes de travail que nous avions proposées aux évêques depuis 2 ans, a donc fait un rapport conclusif en montrant que nous étions davantage intéressés, étant parti de la problématique des pièces de théâtre dites blasphématoires, si vous vous souvenez, et ayant été rattrapé par d'autres événements, en particulier le débat autour du mariage pour tous. Et donc nous a indiqué aux évêques que nous avions peut-être restreint l'objectif aux prises de parole de l'Église en tant qu'institution et souvent de la part des évêques dans ces événements sociétaux et dans ces grands débats de société qui peuvent agiter nos contemporains. Et en faisant la synthèse des auditions que nous avions faites auprès de personnalités de la société civile, comme du monde des élus, comme de la vie associative, au service de diverses réalités comme le mariage, la famille, la vie, nous avons conclu que la place de l'Église, même si elle pouvait paraître numériquement minoritaire, était encore importante dans la société, qu'elle était attendue, et que nous nous rendions compte qu'il y avait des sujets sur lesquels l'Église était toujours attendue, et certainement que nous avions compris aussi que nous devions davantage nous situer dans une posture d'attestation de notre foi, dans le cœur du message qui est le Christ mort et ressuscité, capable d'éclairer toutes les réalités humaines dans lesquelles nous sommes engagés, avec beaucoup d'autres, et en particulier dans un dialogue constructif avec l'État et avec beaucoup d'autres partenaires de notre société d'aujourd'hui.
Nous marquons une pause, Mgr Rayet, nous nous retrouvons pour poursuivre donc cette émission consacrée notamment à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes que vous venez de vivre du 5 au 10 novembre.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Marc Caillé, nous poursuivons donc avec l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes qui s'est déroulée du 5 au 10 novembre et vous avez abordé le phénomène social de l'avortement et ses conséquences. Pouvez-vous nous dire comment vous avez abordé ce sujet avec vos frères évêques?
Alors voilà, rien qu'à l'intitulé de ce groupe de travail et à son objet, le phénomène social de l'avortement, vous saisissez là l'évolution, je dirais, des mentalités au sein même de notre Assemblée. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus de 2 ans, lorsque ce thème, qui n'était pas forcément formulé de la même manière qu'aujourd'hui, mais avait été proposé aux évêques en assemblée plénière par le comité études et projets, comme il se doit, il n'avait pas été retenu par l'Assemblée, tant on sent bien qu'il y a sur l'inconscient collectif des évêques une sorte de poids qui pèse par rapport à ces questions, peut-être précisément parce que nos aînés, en 1975, ont préféré une attitude plus silencieuse qu'une parole forte à l'occasion du projet de loi Veille, n'est-ce pas, en 1975, dépénalisant l'avortement. Donc ça veut dire que si on peut aborder cette question aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de choses de prévention qui sont tombées et qu'il y a un climat qui s'est rasséréné, si l'on peut
dire. Qu'est-ce qui a fait que ce climat a changé, selon vous?
Je pense qu'il y a le renouvellement de l'épiscopat. Un certain nombre de jeunes évêques, de plus jeunes évêques qui sont entrés dans l'Assemblée, qui renouvellent les plus anciens, et qu'aujourd'hui, on ose aborder des questions qui nous paraissent quand même très importante, et je pense que c'est le fruit aussi du ministère prophétique de Jean-Paul II, qui est le pape par excellence de la vie et de l'évangile de la vie, et à la suite de lui de Benoît XVI. C'est aussi le travail de terrain qui est accompli par de nombreuses associations d'inspiration catholique, même si elles sont non confessionnelles en France, qui n'avaient pas tellement droit de citer parce qu'elles nous ramenaient à cette réalité sur laquelle on ne s'était pas trop prononcé, et qui accomplissent aussi un travail de formation, d'éclairage, sinon de réveil des consciences en France. Et à tel point que ce groupe de travail qui est présidé par Mgr Guy de Quérimel, évêque de Grenoble, auquel participent Mgr Nicolas Brouvet et Mgr Olivier de Germay, qui sont tous les deux des anciens élèves de l'Institut Jean-Paul II à Rome, Mgr Henri Brincard et aussi Mgr Jean-Luc Brunin, qui fait le lien ainsi avec le conseil épiscopal famille et société qu'il préside, nous ont invité pour parler aux évêques une certaine Caroline Roux, qui se trouvait chargée de la communication et de l'écoute des femmes en difficulté à l'association Alliance Vita. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 ans, dans le cadre de la formation permanente des prêtres, j'avais invité Xavier Mirabel, le président de l'association Alliance Vita, Tugdual Derville, le délégué général, et Caroline Roux, et que leur animation de cette journée de formation permanente avait été extrêmement appréciée par les prêtres du diocèse. Et de fait, elle nous a parlé pendant une heure de cette situation concrète dans laquelle nous sommes par rapport à l'avortement, des questions statistiques qui sont quand même tout à fait inquiétantes et vertigineuses, des idéologies qui sont derrière. On est passé petit à petit d'une dépénalisation à un droit absolu pour les femmes, qui entre évidemment en concurrence avec le droit non négociable à la vie, dont le premier nom est le droit de naître, comme disait souvent le bienheureux Jean-Paul II. Et que son intervention a été plébiscitée par les évêques, qui ont été bouleversés par ce qu'elle dit, parce que leur langage dans cette association Alliance Vita n'est pas un langage doctrinaire qui part des principes que l'on assène, même si ils sont tout à fait au clair avec les principes de Humanae Vitae, de Familias Consortio et de tous les documents du magistère de l'Église, et d'Evangelium Vitae très particulièrement, hein, mais parce qu'ils partent d'une situation concrète. J'allais dire, pour parler trivialement, qu'ils se coltinent. Hein. Voilà des gens qui font de l'accompagnement des personnes à longueur de journée, qui écoutent beaucoup de femmes en difficulté, qui sont profondément traumatisées hein, après avoir avorté ou avant d'avorter. Et je pense que cet accompagnement des personnes en souffrance par rapport à ce phénomène de l'avortement rend tout à fait crédible un discours scientifique, un discours tout à fait dont les analyses sociologiques, psychologiques sont tout à fait pertinentes, et que les évêques ont été extrêmement intéressés, à tel point que nous devions ensuite, après la pause, débattre entre évêques à huis clos, et que Monsieur Pontier, à la demande de beaucoup d'évêques qui avaient beaucoup de questions à poser à Caroline Roux, lui a demandé de rester encore une demi-heure pour continuer à dialoguer avec les évêques. Donc je crois que ça a été extrêmement positif, et on a bien senti là que les évêques manifestaient une vraie prise de conscience du drame hein, de l'avortement. Sans doute à travers les grandes souffrances dont on commence à parler davantage des femmes, hein, qui sont souvent l'objet d'une pression du milieu, d'ailleurs pression quasi exclusivement masculine, que ce soit ceux de la faculté ou que ce soit ceux du compagnon ou du mari qui n'acceptent pas la grossesse. Et si ce traumatisme est si fort, c'est parce que il s'agit bien d'évacuer non pas un amas de cellules, mais un bébé. D'ailleurs, la femme, quand elle est dans cette angoisse d'avoir une grossesse non désirée, elle se demande si elle va garder son bébé ou non, comme cela est souvent dit et expérimenté. Et vous aurez remarqué que Monsieur Pontier, qui d'ailleurs a remercié chaudement devant l'Assemblée Madame Caroline Roux en lui disant « c'est beau de voir une femme engagée dans cette culture de la vie au nom de sa foi et dans le discours de clôture bah, il a rappelé avec à la fois beaucoup de vérité, beaucoup de charité bien entendu, ce drame de l'avortement qui est quand même bah, qu'on n'évacue pas seulement un amas de cellules. Je vous rappelle que même si le mot n'est pas beaucoup employé aujourd'hui, eu égard à cette souffrance hein, que tout cela représente, c'est le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes qui a parlé de l'avortement comme un crime abominable. Hein. Alors évidemment, c'est un terme qui est difficile à entendre. Il ne s'agit pas de juger les personnes et au contraire d'être à leur chevet, comme des associations comme celle-là nous invitent, nous, hommes d'Église et fidèles de l'Église catholique, à nous situer. Mais c'est aussi se rappeler que c'est toujours un drame de penser qu'il y a 220 000 enfants avortés par an, sans compter ceux qui sont avortés par voie médicamenteuse, dont on sait psychologiquement et scientifiquement que c'est encore plus traumatisant qu'un avortement classique. Et sachant que en France, les campagnes pour la contraception, soi-disant pour éviter l'avortement, non seulement ne font pas baisser l'avortement, augmentent l'avortement de manière très inquiétante, au dire même des organismes nationaux officiels, l'avortement des mineurs, ce qui est un véritable drame, augmentent le nombre d'avortements médicamenteux, mais en plus, la contraception, en France, nous sommes les champions du monde. Donc c'est quand même assez dramatique.
Alors venons-en à l'éducation affective des jeunes, justement, vous en avez parlé aussi.
Alors je pense qu'on n'a pas encore abordé cette question parce que le groupe de travail commence à peine à se mettre en route. Ce sera le deuxième volet de leur travail, du travail qu'ils nous proposeront à faire dans la prochaine assemblée. C'est évident que même si l'avortement est un drame et absolu, qu'on présente malheureusement aujourd'hui comme un droit acquis, ce qui est terrible parce que c'est encore une fois la femme aussi qui emporte le plus lourd tribut. Il faut savoir que le drame, c'est pas tant l'avortement que l'éducation sexuelle et affective. Parce qu'un avortement, ça tue une personne, d'un coup, ça c'est sûr. Mais l'éducation sexuelle telle qu'elle est pratiquée habituellement, détruit une vie. Et c'est certainement vrai qu'en amont de cette gestion de la question de la grossesse, désirée ou non désirée, il y a un gros travail à faire sur le plan de l'éducation affective et sexuelle. Et nous avons, c'est vrai, une anthropologie chrétienne, une théologie du corps, comme disait Jean-Paul II, que nous avons à vraiment diffuser pour permettre aux jeunes, dans un monde qui est privé de beaucoup de repères, eh bien de vivre leur sexualité de manière responsable et dans l'amour, pour paraphraser le titre d'un livre du cardinal Wojtyła, qui était amour et responsabilité.
Alors un autre sujet que vous avez abordé lors de cette assemblée plénière, c'est la formation des futurs prêtres dans les séminaires. Avec deux autres évêques, vous-même, Mgr Hayet, avez témoigné de votre expérience puisque vous avez réouvert le séminaire de Bayonne. Qu'est-il ressorti des réflexions qui ont lieu suite à votre témoignage et à suite des deux autres évêques?
Alors d'abord, là aussi, c'est une grande première, si je puis dire. Depuis que je suis évêque, moi, ça va faire 5 ans le 30 novembre prochain. Donc c'est ma 11e assemblée plénière. Nous n'avions jamais abordé la question des vocations et de la formation des futurs prêtres entre nous. Là aussi, comme tout le monde s'en accordait, c'était un sujet tabou. Parce que nous vivons douloureusement la pénurie des vocations dans nos diocèses, que nous voyons le nombre d'entrées au séminaire diminuer encore en 2012-2013, malgré les JMJ de Rio et malgré les JMJ de Madrid, et que nous voyons aussi pas mal de jeunes qui s'en vont dans les communautés. Pour ne parler que de la communauté Saint-Martin dont je suis issu, cette année il y a 31 jeunes qui sont rentrés en première année, sachant qu'ils en ont refusé 10.
Les communautés ont leur propre séminaire, en fait.
Ont leur propre maison de formation, parfois, en tout cas, le côté Saint-Martin, là. Et donc, c'est pour moi, comme je l'ai dit, et d'autres le disent aussi, ça m'interroge comme avec diocésain. Parce que nous croyons à la figure du prêtre diocésain, qui est attaché à son diocèse, qui se donne jusqu'au bout à son peuple, comme j'en ai d'ailleurs moi-même le témoignage chaque fois que je rencontre les prêtres de mon diocèse et que je sillonne les paroisses. Quand je vois des prêtres qui ont plus de 80 ans, qui sont encore aussi vaillants et qui sont toujours à leur poste, généreusement, je voyais encore à Soumoulougère, Gère Montanet, où on a des prêtres qui ont 82, 85 ans, qui sont toujours sur la brèche, alors que d'autres évêques me disent que dans leur diocèse, à 70 ans, les prêtres disent maintenant, on se retire. C'est quand même, on est nous, en particulier dans un diocèse où les prêtres sont généreux et fidèles à leur mission. Mais pourtant, comme tous s'accordent à dire, nos prêtres diocésains ne semblent pas être attirants aujourd'hui pour des jeunes. Donc c'est une question qu'il fallait prendre à bras le corps. Et de fait, on avait suggéré à les Sémolem que l'on puisse parler ensemble de cette question. Et on avait choisi 3 séquences qui ont été acceptées par le Conseil permanent. Première séquence de témoignage. Donc, on m'a demandé à moi de témoigner de la réouverture du séminaire de Bayonne, Mgr Blacard du séminaire interdiocésain d'Orléans et Mgr Jérôme Beau du dispositif mis en place à Paris depuis le canal Lustiger. Tout ça en lien avec nos communautés chrétiennes, leur avenir dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Donc ça a été très serein et très paisible. Et c'est ça qu'il faut quand même noter. Nos 3 témoignages ont été accueillis avec beaucoup de bienveillance et on en a eu de nombreux témoignages. Par la suite, nos carrefours sur ces mêmes questions que dont nous avions témoigné entre évêques de diocèses de taille semblable, les grands diocèses, les moyens diocèses comme nous et les petits diocèses, ont fait ressortir un certain nombre de constantes, comme la nécessité d'avoir des prêtres ancrés sur le Christ, aptes à une vie fraternelle, déjà entre prêtres, mais aussi avec des laïcs avec lesquels ils sont appelés à travailler, des prêtres résolument missionnaires. Tout ça était vraiment, la plupart du temps, assez plébiscité. Et enfin, on a eu une heure de débat en assemblée, qui a permis de mettre à jour aussi des difficultés qu'on pouvait avoir les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il est bien d'ouvrir un séminaire dans un diocèse quand on peut fragiliser... peut-être que ça pourrait fragiliser d'autres institutions. Est-ce qu'il faut avoir des séminaires de proximité, comme certains le disent, comme moi j'en ai pris l'option, où il faut avoir que 5 grands centres de formation sacerdotale en France. Voilà. Tout ça sont des questions sur lesquelles le débat est possible. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a pu en parler ensemble. Et c'était un peu le but aussi de notre groupe de travail Présence des catholiques dans la société contemporaine, permettent à des évêques qui peuvent avoir des options différentes dans l'ordre des moyens, même si il est sans doute à préjuger que les finalités sont partagées, de pouvoir parler ensemble et s'estimer mutuellement. Et nous disions, nous, au terme de notre travail, de groupe de travail sur la présence des catholiques dans la société contemporaine, comment faire en sorte que des chrétiens dans nos communautés qui ont des options de sensibilité différentes puissent enfin s'estimer mutuellement, dialoguer ensemble, parler mutuellement. C'est aussi dans notre diocèse une grande question à laquelle je demandais au conseil presbytéral de s'atteler aussi, trouver des outils, de trouver un meilleur terme, pour aider les différentes sensibilités dans notre diocèse à s'estimer sans s'envoyer des anathèmes à la figure, sous prétexte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes options idéologiques et pastorales.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Haillé, nous vous retrouvons donc pour cette troisième partie. Vous avez abordé aussi dans le sillage du Rassemblement Diaconia 2013 la place des plus pauvres dans la vie de nos églises diocésaines. C'est une réalité finalement aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres dans notre pays.
Oui, tout à fait. Et puis on a de fait surtout salué l'élan qu'avait apporté Diaconia 2013 dans nos diocèses par rapport à cette nécessité d'accueillir, d'intégrer davantage dans nos communautés les personnes en situation de fragilité, de précarité, parfois d'exclusion. C'est vrai que dans notre société en crise sociale, économique, on a de plus en plus de gens qui sont laissés sur le bord du chemin. Mais c'était aussi se dire, c'est pas seulement les organismes caritatifs dont c'est la vocation et la profession à s'occuper des plus pauvres, c'est toute la communauté, pas seulement dans un sens d'assistance, même s'il s'agit bien de définir la diaconie comme la manifestation organisée de manière communautaire de la charité du Christ envers tous, les frères les plus démunis, les plus pauvres, les plus éloignés, mais il s'agit de les intégrer pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs de la construction de nos communautés. Alors on s'est partagé finalement des expériences et puis on s'est promis de faire avancer cette belle cause dans nos diocèses.
Alors Monseigneur Haillé, un mot rapide sur la nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie, puisqu'on vous a soumis pendant cette assemblée plénière la nouvelle traduction donc en avant-première qui sort officiellement le 22 novembre. Cette Bible, en fait, n'avait jamais été traduite entièrement pour la liturgie. Alors, on a beaucoup parlé du changement dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation au lieu de la formule actuelle. Est-ce que c'est la seule nouveauté de cette traduction ?
Non, bien sûr que non. Hein. On a parlé du Notre Père parce que ça sera introduit ensuite dans la formulation liturgique du Notre Père dans le cadre de la révision des traductions du Missel, pour le coup. Mais qui n'entrera en vigueur que lorsque cette traduction du Missel sera, de l'ordinaire de la messe, sera reconnue et validée, approuvée par Rome. Non, mais c'est intéressant de voir que depuis 2001, c'est-à-dire une instruction de Jean-Paul II intitulée « Liturgiam Authenticam », où il était demandé une révision après les premières révisions qui avaient pu être faites un peu à la hâte parfois, après le concile en langue vernaculaire, donc une révision des traductions liturgiques en langue vernaculaire du missel, des textes de la liturgie, des livres liturgiques. On a éprouvé le besoin donc de réviser la traduction liturgique de la Bible, c'est-à-dire les textes qui sont effectivement partie prenante de la liturgie à travers le lectionnaire, hein, de la messe et des différents rituels sacramentels, mais aussi de l'ensemble de la Bible. Alors effectivement, il y a des affinements, une meilleure correspondance à la fois avec le sens littéral, donc à l'aide de l'exégèse proprement dite, mais aussi pour un usage parlé. Et c'est évident qu'on ne peut pas proclamer la parole de Dieu comme on la lit. Et il peut y avoir des choses que l'on lit, et on voit bien que ça... Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a qui sont amusants. Et alors, quand ils sont proclamés, ça peut donner lieu à des quiproquos lorsque c'est traduit, lorsque c'est... qu'on n'a pas le texte sous les yeux. Voilà. Alors, évidemment, il y a la sixième demande du Pater, qui a été heureusement modifiée. Je pense que cette sixième demande du Pater, qui avait adopté tout simplement, sans vrai travail exégétique, une traduction protestante, donc par un souci écuménique qui était « Ne nous soumets pas à la tentation », n'a vraiment jamais convenu. Il est fort probable d'ailleurs qu'elle n'ait jamais été l'objet d'une vraie réconitio à l'époque, mais qu'elle était entrée dans l'usage et puis que ça était fixé comme ça.
La nouvelle formule vous convient ?
Bien sûr, oui. Même si on pourrait faire encore mieux à l'aide des études de l'abbé Carmignac, hein, qui sont très célèbres et qui avait justement mis le doigt sur la vraie traduction de cette sixième demande en allant au-delà du latin et du grec jusqu'à une version sémitique qui est certainement celle dans laquelle Jésus a enseigné le Notre Père.
Et cela veut dire que les autres confessions vont garder l'ancienne formule ?
On verra bien si écuméniquement les protestants s'aligneront sur nous, puisqu'on s'est aligné sur eux. Peut-être que ça peut être un bon retour, pas de balancier, mais une manière de donner
le change.
Le change. Mais c'est certainement que ne nous soumet pas à la tentation. C'est vrai que, bien sûr, comme quand je le disais, je ne pensais pas que Dieu puisse nous soumettre à la tentation, ce qui est un véritable blasphème, comme dit saint Jacques dans sa première épître. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, si le verbe qui a été traduit par inducere en latin, mais le traducteur est forcément un traître, un traduttore, traditore, comme on dit en italien. Il faut mieux dire ne nous laisse pas entrer en tentation, ou fait que nous n'entrions pas en tentation, ce qui aurait été encore mieux. Mais ça, moi, je suis pas, c'est pas moi qu'il est donné de reconnaître les textes officiels.
Merci Monseigneur Ayer. Revenons maintenant sur les événements qui se sont déroulés dans notre diocèse depuis notre dernière émission, notamment ce voyage aux États-Unis que vous avez effectué à la fin du mois d'octobre. Vous avez participé à une campagne 40 Days for Life, donc ces campagnes anti-avortement qui ont lieu régulièrement aux États-Unis. Un voyage qui a donné lieu à une sorte de polémique dans les journaux locaux, puisqu'ils ont découvert ce voyage qui n'était pas vraiment prévu dans votre agenda. Quel était le but de cette visite ? Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous y êtes allé ?
Alors d'abord, je dois remarquer que je donne de mauvaises habitudes à mes diocésains, parce que généralement, je dis tout ce que je fais. Donc pratiquement tout ce que je fais, toutes mes allées et venues sont dans mon agenda. Et je suis un des rares évêques à le faire, parce que si vous regardez les agendas de mes chers confrères, il n'y a vraiment que des choses très essentielles. Bon, mais ceci dit, le voyage ayant été prévu un peu, pas à la dernière minute, mais pas tout à fait dans les temps, il n'était sans doute pas possible de le mettre dans l'agenda à ce moment-là où j'ai omis de le faire. Il n'y avait rien, aucune cachotterie. D'ailleurs, la presse s'est empressée de faire un arrêt sur image, parce que je ne suis pas allé pour participer à une campagne anti-avortement de l'association 40 Days for Life, qui d'ailleurs avait été intervenant à notre colloque international sur la vie il y a à peu près un an, à Biarritz. Je suis allé avec certaines personnes qui m'avaient invité à Paris pour une rencontre avec des associations d'inspiration catholique, tout à fait en phase avec l'Église aux États-Unis, qui sont en effet très engagés dans la culture de la vie et la culture de la famille. On dit pro-life en anglais et pro-family. Ceci dit, j'en ai profité pour rencontrer, c'est vrai, des réalités ecclésiales qui sont engagées dans ces pastorales, en particulier au siège de la Conférence des évêques des États-Unis, où j'ai concélébré la messe pour la vie, qui est célébrée tous les jours pendant le mois d'octobre, et aussi à la chapelle hein, du siège de la conférence des évêques des États-Unis. Et là, elle était présidée par l'évêque auxiliaire de Washington. Et puis après, avec lui, nous avons rencontré les services de la conférence des évêques qui sont dédiés les uns à la culture de la vie, les autres à la pastorale familiale. Et ça a été des échanges très intéressants, partage de réflexions et d'expériences dans ce domaine où c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une véritable... Ensuite, j'ai rencontré, c'est vrai, des associations engagées pour l'aide, dont cette association qui ne fait pas des manifestations anti-avortement, si je puis dire, mais qui prie pendant 40 jours et qui jeûne en se relayant sans cesse devant des centres d'avortement. Ce n'est pas comme chez nous, où les avortements ont lieu de manière, j'allais dire, quasi confidentielle dans des cliniques ou des hôpitaux, même si on a 130 qui ont fermé quand même. C'est intéressant à le savoir. Ça veut dire que ça commence à poser un problème pour beaucoup de personnels de santé et de nombreux médecins en France qui refusent de prescrire l'avortement. Mais là-bas, ce sont des cliniques spécialisées en avortement. Hein. Donc, ils se contentent d'être devant, de manière très pacifique, pour prier. Et de fait, ils interpellent ainsi des femmes qui ne savent pas trop ou qui sont souvent sous la pression et qu'ils aident ensuite, si elles décident librement de ne pas avorter, qu'ils les accompagnent ensuite jusqu'à la grossesse pour ne pas les laisser dans leurs difficultés sociales qui peuvent être aussi à l'origine de leur première décision. C'est ainsi que des milliers d'enfants, des centres d'avortement, ont été fermés, des milliers d'enfants ont été sauvés au bout de chaque campagne. Hein. Je crois qu'il y a deux campagnes par an. Et ça se passe dans tous les États-Unis. D'ailleurs, j'ai trouvé aujourd'hui une photo du nouveau président de la conférence épiscopale américaine, Mgr Joseph Kurtz, qui participe à genoux, là, on le voit, à une de campagne d'automne des 40 jours pour la vie. En disant son chapelet à genoux. Voilà.
Vous imaginez faire cela en France ?
Non, j'ai pas dit ça. Je suis allé parce qu'ils m'ont invité, le 1er novembre, j'allais à la cathédrale pour rencontrer le cardinal Wuerl, qui est l'archevêque de Washington, et concerner la messe de la Toussaint avec lui, avec cette famille qu'on avait accueillie l'an dernier, d'ailleurs, dont lui, David Birate, est le responsable de cette association. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez venir avec nous ? On va prier avant d'aller à la cathédrale, à côté de la cathédrale, d'ailleurs, devant un centre d'avortement. Donc je suis allé avec eux. Et je pense que c'est une belle chose qui est bien comprise. Je ne me vois pas aujourd'hui encore faire ça, mais je dirais que ce voyage m'a donné à penser pour l'exercice de mon ministère d'évêque dans ce domaine de la culture de la vie et de la famille, parce qu'on a partagé des expériences, on a partagé des réflexions, et évidemment, toute proportion gardée et toute, différence culturelle considérée, qu'est-ce que nous, on peut faire pour être encore plus... performant pour défendre la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle.
Monseigneur Marc Caillé, nous marquons une pause. Je signale à ceux qui nous écoutent que cette émission est enregistrée le mardi 19 novembre 2013.
Radio La Pourdine, 96.8.
Monseigneur Ayé, nous vous retrouvons. Vous avez publié le 23 octobre dernier sur le site du diocèse un communiqué intitulé « Le Téléthon en question » où vous soulignez trois difficultés. Est-ce à dire que les chrétiens ne doivent plus participer à cette manifestation ?
Ayant été interrogé par des personnes qui voulaient savoir exactement quelle était la position de l'évêque, dont certains en effet s'émeuvent de la participation à ces... massive de fidèles catholiques et parfois même de nos institutions elles-mêmes dans le Téléthon et dont d'autres le comprennent très bien mais ne comprennent pas pourquoi l'Église a pu avoir quelques réserves par rapport à cela. J'ai voulu faire bien en amont un communiqué qui invite au discernement. Alors si vous remarquez bien la conclusion de mon propos, je dis seulement... si l'Église est pleinement dans son rôle lorsqu'elle s'efforce d'éclairer ou d'alerter les consciences vis-à-vis de certaines dérives contraires au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, je ne peux pour ma part qu'inviter les personnes qui s'interrogent sur l'opportunité de soutenir ou non le Téléthon à faire preuve, en la matière, d'une grande prudence et d'un authentique discernement moral et spirituel. Donc en gros, je donne trois éléments qui permettent d'éclairer ce discernement. Après, je renvoie les gens à leur discernement. Et en effet, je m'appuie aussi sur des déclarations antérieures du président de la Conférence des évêques de France, que ce soit M. le cardinal Ricard en 2006, que ce soit le cardinal 23 un peu plus tard, que ce soit le diocèse de Paris en 2011, où, de manière récurrente, un certain nombre de choses sont dites. Moi, je dis seulement que j'appelle toujours un fléchage des dons, comme dans la plupart des associations. Or, comme vous le savez, l'AFM persiste à refuser ce fléchage des dons, sachant que il y a un certain nombre de dons qui, alors que l'immense majorité, c'est vrai, des dons va effectivement pour soulager les malades, en particulier atteints de myopathie, et les familles, hein, et je salue d'abord, comme vous l'avez remarqué dans mon communiqué, l'immense générosité des Français vis-à-vis de en vue de la recherche médicale. Hein, bon. Mais je dis qu'une partie de ces dons va à des recherches qui ne sont pas éthiques parce qu'elles détruisent des embryons, elles concernent l'utilisation de cellules souches embryonnaires, ce qui n'est plus d'actualité, si on peut dire, parce que non seulement ces recherches n'apportent depuis des années aucun effet avéré, mais que depuis, on a fait des découvertes sur l'utilisation des cellules souches adultes et sur les cellules pluripotentes induites, dites IPS, issues de la reprogrammation de cellules souches adultes, à la faveur du fameux grand scientifique Yamanaka, hein, qui a obtenu le prix Nobel de médecine et qui a été accueilli à l'Académie pontificale des sciences cette année par le pape François. Or, ces recherches sont parfaitement éthiques et trouvent des lieux d'expérimentation, des résultats tout à fait probants dès aujourd'hui. Alors voilà, j'invite à ça, je demande le fléchage des dons et je dis qu'il faut faire attention aussi que le Téléthon revendique la mise en œuvre de pratiques d'inspiration eugéniste à travers la fameuse, comment dire, ce qu'on appelait les bébétons, hein, qui sont présentés comme un grand succès thérapeutique, disait Mgr Michel Opetit, qui est un spécialiste de biotique, qui est médecin lui-même de formation et qui est actuellement évêque auxiliaire de Paris, et qui ne sont pas le fruit d'une guérison due à la recherche, comme on aurait pu l'espérer, mais le fruit d'une sélection embryonnaire. Alors c'est quand même, finalement, ça peut être très grave. Voilà. Je pense bien que tout le monde ne sait pas tout ça et que l'essentiel des gens qui s'engagent là...
Et que doit faire, par exemple, un curé de paroisse à qui on demande son église pour un concert pour le Téléthon? Est-ce qu'il doit refuser? Est-ce qu'il doit mettre en garde? Est-ce qu'il doit dire avant, au début du concert, peut-être, réticence de l'église par rapport à...
Si là, en âme et conscience, il est éclairé de ces réalités-là et qu'il y adhère parce qu'il sent que c'est vraiment objectif, moi, je serais lui, mon discernement en tout cas, me conduirait à dire, non, pour ces raisons-là, je ne peux pas mettre l'Église à disposition. Mais ceci dit, cette générosité, elle peut être mise à profit d'autres associations qui œuvrent aussi pour la guérison des maladies génétiques et pour aider les familles en difficulté et les malades en difficulté, mais qui sont éthiquement corrects, si je puis dire.
Alors, on change de sujet avec un événement récent qui a marqué le diocèse. C'était le 26 octobre à l'abbaye de Belloc, une rencontre avec tous les mouvements et associations de fidèles laïcs du diocèse, rencontre à laquelle vous avez participé. C'est important pour vous que les mouvements se fassent connaissance entre eux? Finalement, ils n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer dans leur diversité.
Alors, j'avais suscité, il y en a fait deux ans maintenant, des rencontres. On avait eu deux à Salis de Béarn, à l'initiative évidemment de l'abbé José Bourreau, hein, qui est le DEMAF, c'est-à-dire le délégué épiscopal au mouvement et aux associations de fidèles, comme on le dit maintenant, j'avais suscité deux rencontres pour mieux me rendre compte de tout ce qui se faisait au niveau des mouvements et des associations de fidèles dans le diocèse. Et on avait parlé de leur, non seulement de leurs activités, mais comment elles s'inscrivaient aussi dans le défi de la nouvelle évangélisation. Et de ces bonnes rencontres avait émergé une demande qui était d'organiser sur le diocèse un forum, une journée, pour permettre à ces associations et ces mouvements de effectivement se rencontrer et de se partager, ensemble sur un thème relatif à la mission de l'Église. Et en l'occurrence, il s'agissait de la place et du rôle ou de la mission des laïcs dans l'Église et dans notre diocèse, voilà, et dans le monde. Donc ça a été une très riche rencontre. Hein. Il y a quand même eu plus de 300 participants, avec extrêmement bien organisé par l'abbé José Bourreau et son équipe. Un accueil toujours fraternel de l'abbé de Belloc, et avec une conférence de Monsieur Duplex, des ateliers. Donc il y avait une série d'ateliers animés sur des thèmes qui touchaient à ce thème général. Le matin et l'après-midi, pour permettre aux uns et aux autres de participer à deux ateliers, et puis qui se terminait par une table ronde, parce que tout ça avait sans doute mis en valeur un certain nombre de questions, avec des réponses apportées, et puis terminant par l'Eucharistie que je présidais.
Disciples et missionnaires, aujourd'hui, c'était le thème du 8e forum de la pastorale des jeunes de notre diocèse. Vous étiez à Orthès le 11 novembre dernier.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai participé à toute la journée. Et l'intervenante d'aujourd'hui était, l'assistante de sœur Nathalie Bécard, qui est la grande responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations, le SNEJV, comme on dit, qui était déjà venu l'an dernier. Donc il s'agissait de
Ségolène
Mogg, hein, qui est l'épouse d'un diacre permanent, qui est le directeur de l'ISPC, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. Et j'étais très très heureux de son ton tout à fait direct, j'allais dire de son peps, hein, qui rejoint celui de Nathalie Bécard, et qui a bien dit les choses. Et je crois qu'on s'est retrouvés tout à fait en phase. D'ailleurs, nous avons animé en fin de matinée tous les deux la table ronde pour répondre aux questions des jeunes. Et j'ai senti qu'on était en pleine, tout à fait en communion et en phase sur la nécessité qu'est-ce que ça voulait dire être disciple de Jésus pour des jeunes et qu'est-ce que ça voulait dire être missionnaire. Comme vous savez, c'est un de mes thèmes de prédilection, hein, qui a toujours été au cœur de ma première lettre pastorale, de ma seconde lettre pastorale, dont c'est le sous-titre, pour une église de disciples et missionnaires. Et c'était d'ailleurs le thème dominant des JMJ de cette année à Rio et pour nous à Lourdes.
Pour les prochaines JMJ en diocèse, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, vous les invitez à Bayonne, je crois.
Ah ben, y a intérêt, oui. Je les invite à ne pas relâcher la mobilisation. Et puisque ces JMJ sont vécus avec une grande joie et un grand enthousiasme par tous nos jeunes, qui sont heureux de se retrouver pour une expérience qui est à la fois fraternelle et spirituelle, hein, ancrée sur le Christ et au cœur de l'Église, je les invite évidemment à ne pas relâcher leur mobilisation et être vraiment présents la veille des rameaux, selon les propositions qui leur seront indiquées en son temps, mais pour ces JMJ en diocèse.
Alors d'autres événements revigorants, ce sont bien sûr les visites pastorales, puisque vous en avez effectué deux récemment, une à Saint-Jean-Baptiste de Basse-Soule-Moléon fin octobre, et une autre à Saint-Joseph-de-Lousse-Soumoulou, dont vous revenez à peine. J'imagine que vous en ressortez toujours confiant dans votre mission.
Et enthousiaste, il faut dire que je suis d'un tempérament optimiste, peut-être enthousiaste, je l'espère, mais toujours enthousiaste. Hein. C'est vrai, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur à faire ce vide pastoral, d'immersion complète dans une paroisse pendant 5 jours, avec les prêtres, avec qui on lie des relations qui ne sont plus des relations institutionnelles, hein, qui sont des relations fraternelles, finalement, ce qu'on vit ensemble dans le presbytère quand même. Et puis ensuite, on vient, on rencontre les fidèles, on rencontre ceux qui sont les acteurs de la vie des hommes, des territoires. Alors la Soule, bah, j'étais très heureux de découvrir cette province tout à fait basque, un peu atypique, parce qu'elle est très petite. Elle est enfermée dans une vallée, hein. Il y a donc une très grande homogénéité géographique, culturelle, linguistique, puisque c'est une langue un petit peu différente du basque auquel on est habitué dans le Labour ou dans la Basse-Navarre, même si l'essentiel des mots est le même, et c'est la même chose. Hein. Mais bon, une prononciation un peu plus castillane, comme nous a expliqué le docte Jean-Louis Davant, qui est un académicien délicieux. Et en particulier, j'ai eu une rencontre avec les responsables de la vie culturelle de la Soule, qui a été prodigieuse. J'ai l'impression qu'on se trouvait au coin du feu, là, qui parlait d'abondance du cœur, là, de cette culture. J'ai bien perçu, même si je le perçois depuis longtemps, hein, au contact de la culture basque ici ou là, mais j'ai bien perçu la lame de la culture basque, là, à travers ces beaux témoignages que j'ai reçus. Et puis, dans une toute autre région, puisque là on est dans l'extrême est du diocèse, limitrophe,
Soumoulou,
voilà, Soumoulou,
à l'est de Pau,
près de Pau et presque près de Tarbes, entre Pau et Tarbes on pourrait dire. Mais Gers-Montanais, hein, avec les enclaves, les fameuses enclaves des Hautes-Pyrénées qui sont dans cette paroisse du Montanérès. Bon, alors là aussi, c'est un autre cas de figure, mais j'ai eu beaucoup de joie aussi à rencontrer les paroissiens qui avaient bien préparé la visite, qui avaient profité de cette préparation de la visite pour groupe par groupe faire des révisions de vie autour de ce qu'ils faisaient, à l'instigation d'un curé qui est un très bon pasteur. Hein, et donc là aussi, on a vécu 5 jours magnifiques. Hein, ça resserre les liens. Je pense que l'évêque, comme je leur dis toujours, il essaie d'être le pasteur du diocèse. Donc, à l'imitation de celui seul qui peut dire je suis le bon pasteur, qui connaît ses brebis, que ses brebis connaissent, ben, il faut qu'on se rencontre pour se connaître et pouvoir envisager l'avenir de nos communautés et ensemble voir comment relever le défi de la mission aujourd'hui.
Du 25 novembre au 1er décembre, vous irez visiter la paroisse Saint-Vincent-des-Baïs, Monin. Donc là aussi, c'est vraiment plein de rencontres riches.
Ah oui, alors comme toutes les visites, ce sera très gastronomique. Et là, ce sera plutôt le Jurançon qu'on va me faire goûter ici ou là.
Alors dans cette émission, Monseigneur Haye, on ne pouvait pas passer sous silence le décès de 3 prêtres, de 3 figures du Pays Basque. 3 décès récents et qui ont notamment marqué la commune d'Urugne, puisque le curé était en activité.
C'est ça. Alors on a perdu 2 grandes figures. Hein, du presbytérium, même s'ils étaient déjà retirés. Hein, je pense au chanoine François Gastambide, qui a connu des mutilations, je peux dire, hein, depuis quelques mois et depuis 2 ans, qui avait vécu un magnifique pèlerinage à Lourdes, j'en suis le témoin, et il en est revenu rayonnant. Puis quelques jours après, le Seigneur l'a rappelé et l'a libéré aussi de ses souffrances. Et puis aussi l'abbé de Kellar, qui est une grande figure aussi, et qui avait été le directeur diocésain d'enseignement catholique, qui est parti lui aussi un peu prématurément, mais depuis sa maison de retraite d'Arditeillac en Beau. Par contre, c'est vrai que Jean-Claude Etcheberry, ça a été un choc pour les paroissiens, évidemment, d'Urugne, et pour le presbytère tout entier, car c'est un prêtre qui était vaillant dans la force de l'âge, et on pouvait sans doute savoir compter sur lui comme curé pendant de nombreuses années. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et j'admire la manière dont les paroissiens ont accompagné son décès avec une grande foi, une grande confiance. Et puis, ça resserrait les liens et ça montrait aussi qu'une communauté qui perd son prêtre n'est pas complètement désemparée. D'abord parce qu'il y a les prêtres de la paroisse qui sont là et qui ont tout à fait bien assuré la relève, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de laïcs qui sont engagés hein, dans les services de nos paroisses et la vie peut aussi continuer.
Merci Monseigneur pour cet entretien avec vous sur tous ces événements et puis sur l'Assemblée plénière. On conclut peut-être avec la clôture de l'année de la foi. Alors au jour où nous enregistrons cette émission, elle n'est pas tout à fait clôturée. Donc il y aura 2 célébrations à Pau et à Bayonne. Vous avez souhaité que l'on passe symboliquement la porte de la foi avant ces célébrations.
Voilà, c'est ça. Qu'on commence par se masser à l'extérieur de l'église, qu'on entre en procession dans l'église, qu'on passe la porte de la foi à travers le franchissement de la porte d'entrée de la cathédrale à Bayonne et de l'église Saint-Jacques à Pau le lendemain, et qu'on puisse refaire là la profession de foi baptismale qui nous fait franchir personnellement la porte de la foi, et puis qu'au cours de la messe, on chante tous ensemble le credo pour faire une confession publique de la foi, et que ces messes de clôture soient des véritables messes d'envoi en mission, pour aller témoigner de notre foi, afin qu'à cause de notre témoignage, le Seigneur, comme dit saint Paul dans les Actes des Apôtres, puisse ouvrir la porte de la foi à beaucoup de nos contemporains qui sont en attente de cette espérance.
Un mot sur la convocation d'un synode sur la famille par le pape.
Voilà, alors la réalité de la famille est vraiment au cœur, on le voit bien, de nos préoccupations pastorales, puisqu'elle est extrêmement chahuté et menacé dans la société d'aujourd'hui, en mal de repères. Et le pape a convoqué un synode extraordinaire sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte actuel de la nouvelle évangélisation, hein, finalement, pour octobre 2014, en envoyant un questionnaire qui sera largement diffusé dans nos réalités de base, en particulier auprès de ceux qui sont plus engagés dans la pastorale familiale, par exemple en mariage ou autre, afin qu'il y ait aussi une participation de tous à la réflexion sur ces défis pastoraux.
Merci beaucoup, Monseigneur Haye. Merci à Violaine Ricourt-Dumas. Nous nous retrouverons au mois de janvier 2014. Et en attendant, nous saluons tous les auditeurs. Merci.
Merci.